en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Pionnier de la tectonique des plaques, Xavier Le Pichon, membre de l'Académie des sciences, professeur honoraire au Collège de France, a joué un rôle primordial dans l'étude des frontières des plaques. Cela l'a conduit à l'exploration des grands fonds marins à bord de sous-marins en plongée dans les années 60 et 70. Retour sur cette révolution récente en sciences de la Terre, lors d'une conférence donnée par le géodynamicien au Bureau des longitudes, c'était en novembre 2008 à l'Institut de France.
Je commence par une citation que j'aime bien, elle est peut-être apocryphe, mais ce n'est pas grave, de La Rochefoucauld parlant à Louis XVI juste après la prise de la Bastille, dans laquelle Louis XVI demande à La Rochefoucauld « c'est une révolte ?» La réponse de La Rochefoucauld « Sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. » Voilà. J'aime bien ça parce que ça pose le problème de qu'est-ce que c'est qu'une révolte et qu'est-ce que c'est qu'une révolution. Nous avons tout le temps dans le domaine scientifique des nouvelles idées qui sont présentées, qui à un moment font un temps et puis disparaissent. J'appellerais ça une révolte. Une révolution, c'est lorsque il y a une acceptation de l'ensemble de la communauté. Là, il faut définir l'ensemble de la communauté pour dire que la nouvelle proposition est telle que en gros, il faut travailler avec. Donc, dans la révolution, le nouveau modèle s'impose avec une grande rapidité lorsque le pouvoir explicatif et prédictif du nouveau paradigme, du nouveau modèle proposé, est supérieur à celui de l'ancien pour l'ensemble des faits observés par les chercheurs. Donc, c'est quelque chose qui apparaît comme une évidence quand on le vit, mais ce n'est pas si simple de savoir comment s'est fait la transition d'un système à l'autre. Alors, la tectonique des plaques, dont je vais parler, parce que j'ai participé à son élaboration, en faisant en particulier le premier modèle quantitatif cinématique du globe avec six plaques. Donc, j'ai été au cœur de la manière dont ça s'est mis en place et j'ai pu observer et réfléchir sur ce qui se passait. Je pense que la caractéristique fondamentale, c'est que c'était le premier modèle quantitatif global d'évolution de la Terre qui était à la fois quantitatif et interdisciplinaire et qui a un aspect qui est très important de comprendre, c'est qu'il est venu d'une exploration de l'océan global qui essentiellement n'était pas connue avant. Alors bien sûr, il y a bien d'autres causes, mais ça a été le facteur déclenchant. Alors, il y a deux étapes au fond dans cette tectonique des plaques. Je reviendrai après sur l'élaboration d'un certain nombre de choses. Mais ces étapes sont d'abord en 1960, qu'un chercheur américain de Princeton, assez génial, que j'aimais beaucoup, moi, avec qui j'ai beaucoup discuté et correspondu, Harry Hess, a proposé le modèle de ce qui a été appelé par Robert Dietz « seafloor spreading », ou en français quelquefois en traduit « tapis roulant », qu'il présentait comme un essai en géopoésie. Alors pourquoi il le présentait comme un essai en géopoésie? C'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, en particulier aux États-Unis, où je vivais, j'avais commencé ma carrière scientifique aux États-Unis, le modèle fondamental était un modèle fixiste, dans lequel les continents ne bougeaient pas les uns par rapport aux autres, et l'essentiel des mouvements était verticaux. Les mouvements horizontaux n'étaient pas importants. Donc, il était très dangereux pour sa carrière de se présenter comme n'allant pas selon ce modèle. C'est là qu'on voit aussi le problème lié à un modèle dominant un peu ferme, surtout quand il y a des autorités importantes. Et donc, pour éviter de se faire attaquer violemment, il a lancé son idée comme quelque chose qui était de la géopoésie. Et si on pensait au globe de cette manière-là? Et il a commencé par faire circuler ça sous le manteau, d'abord comme un rapport, et puis ensuite comme quelque chose qui existait. Il ne l'a publié en fait qu'en 1962. Ça vous montre déjà la difficulté qu'il y avait. Son modèle est essentiellement un modèle qualitatif qui est une étape déterminante puisqu'il va recentrer le modèle global sur les océans, alors que jusqu'à présent, il était sur les continents. Maintenant, ça va devenir le centre. Ça, je crois que c'est un point qui est fondamental. Alors, vous le connaissez, ce modèle. Le tapis roulant commence à l'axe des dorsales par remontée de matériaux chauds qui, en se refroidissant, devient non plus ductile comme la sténosphère qui est en dessous, mais en fait essentiellement cassant et rigide. Et donc, à partir de là, va se déplacer progressivement. Vous allez avoir un écartement de part et d'autre de la dorsale. Et puis, en fin de compte, quand c'est devenu suffisamment froid et lourd, ça finit par plonger dans les fosses de subduction. Donc, c'est un modèle dans lequel le fond des océans se renouvelle sans cesse et les continents n'ont que des effets secondaires de ceci. Alors, le moteur, dans ce cas-là, c'est essentiellement un moteur qui est dû à une convection un peu particulière dans le manteau, avec une couche rigide qui se déplace à la surface. Au fur et à mesure qu'elle se refroidit, elle s'épaissit, devient de plus en plus lourde. Et donc, la gravité de cette plaque joue un rôle très important, sans doute majeur dans cette affaire. Donc voilà ce qui était présenté par Hess. À un moment où très peu de gens l'ont considéré sérieusement. Au Lamont où j'étais, qui naturellement était un pôle fixiste, ça faisait rire. Les gens n'étaient pas très intéressés. Pourtant, Hess était à côté, la porte à côté, à Princeton. Nous dépendions de Columbia et c'était assez. On avait des dialogues et des discussions très fréquentes. Alors, la seconde étape a été à partir du moment où, ayant reconnu que ce modèle fonctionnait sur les dorsales, on a en 67-68 été capable de mettre un modèle global qui conceptisait le système en reconnaissant qu'il s'agissait de plaques rigides, en supposant que les déformations n'existaient que sur les bordures, soit par écartement aux dorsales, soit par rapprochement le long des zones de subduction. Ça a été ce qui s'est passé en 67-68. Donc deux étapes, une étape qui était une étape qualitative, où on réfléchissait sur le nouveau rôle des océans, et ensuite porté à l'échelle du globe, avec toutes les conséquences que cela implique, et qui devenait un modèle global quantitatif. Alors, la première question qu'on se pose, parce que très souvent, les personnes qui réfléchissent, surtout ceux qui sont un peu périphériques aux sciences de la Terre, disent « bah oui, il y a eu Wegener ». Wegener, dès 1910, a proposé la dérive des continents. Vous avez retrouvé la dérive des continents. Quelle est la différence? Et pourquoi Wegener a-t-il été abandonné? Donc, ça montre l'aveuglement des scientifiques de l'époque, toute cette époque entre les deux guerres, et leur obstination. Il y a eu un précurseur génial qui était Wegener. Personne ne doute que Wegener était génial, mais il est important quand même de comprendre pourquoi Wegener a été en gros rejeté massivement, en particulier par toute la communauté géophysique. Et à l'époque où j'ai commencé mes études, notre professeur de géologie à Strasbourg, par exemple, en parlait comme un beau rêve, mais un rêve qu'on a dû abandonner. Et c'était à peu près général. Alors Wegener, je ne vous ai pas mis la figure de Wegener, c'est une figure exacte sur l'évolution de l'ouverture de la Pangée, mais Wegener essentiellement avait effectivement décrit cette ouverture de la Pangée et proposé cette ouverture de la Pangée depuis 200 millions d'années. Mais le problème, c'est qu'il a voulu l'expliquer et que, comme c'était un physicien, il a cherché des explications physiques et son modèle était invraisemblable pour les géophysiciens. J'expliquerai tout de suite pourquoi. Voilà le schéma qu'il donne dans l'édition de 1929 de la dérive des continents. Vous savez qu'il est mort en 1929 au Groenland. Wegener donc proposait qu'il y avait deux systèmes. Un système qui correspondait au SIAL, ou SAL, dans lequel il y avait du granit qui formait les continents, et puis une couche inférieure basaltique qui était essentiellement fluide. Donc quand le continent se déplaçait, il laissait une traînée de couches fluides qui étaient sous les océans, et puis finalement, au milieu, on pouvait avoir directement le manteau, la dunite qui venait ici. Donc il supposait que le granit était rigide, le basalte fluide, et naturellement, la réponse qu'ont donné un certain nombre de personnes, et quelqu'un qui a joué un très grand rôle, c'est Jeffreys. Moi, j'ai été formé sur le plan géophysique par le livre de Jeffreys, The Earth, qui a eu je ne sais pas combien d'éditions depuis quelque chose comme 1925 ou 1930, à chaque fois différentes. Et la dernière qu'il a fait, je crois que c'était en 67 ou 68, était encore rejetant la dérive des continents. Alors, quelles étaient les raisons de son rejet? C'est intéressant de voir. Continental drift is quantitatively insufficient and qualitatively inapplicable. It is an explanation which explains nothing which we wish to explain. Donc, la dérive des continents est quantitativement insuffisante et ne peut pas être appliquée qualitativement. C'est une explication qui n'explique rien de ce que nous voulons expliquer. The evidence for it is mainly paleontological. Ça, c'est clair. Les preuves étaient basées essentiellement sur le fait que quand on remettait la géométrie de l'Atlantique, enfin, fermant l'Atlantique, la géométrie de l'Afrique, Amérique, etc., ça remettait de l'ordre dans la paléontologie. Et voilà quel était l'argument qui choquait profondément Jeffreys. Wegener assumes a finite viscosity for the sima below the continents at a high temperature. And lightheartedly, de bon cœur, did the same for it on the ocean floor at about 0 degrees centigrade. Alors ça, il ne pouvait pas l'accepter, Jeffreys, que le basalte, qui pour lui était quelque chose qui était plus solide que le granit, et c'est un fait, puisque la température de fusion est plus élevée, puisse être quelque chose de fluide, alors que le granit ne l'était pas, y compris à 0 degré à la surface des continents. Ça lui paraissait quelque chose d'invraisemblable. Et un autre argument qu'avait Jeffreys, sur lequel il a beaucoup discuté, y compris quantitativement, en faisant des modèles, « But the ocean floor shows irregularities of level of the same magnitude as those within the continent and must have a comparable strength to prevent them from flattening out. » Si c'était fluide, ce système de basalte, il dit « Comment est-ce que vous expliquez que vous avez des topographies de plusieurs kilomètres dans les océans ? Ça devrait s'étaler. » Il y a une viscosité qui est très faible, ça devrait s'étaler, ça ne s'étale pas. Donc, ça a une résistance finie importante. Et finalement, et ça c'est un point très important, le dernier point, « I must reject the whole attitude that maintains that any type of scientific evidence can by itself be so completely demonstrative as to require rejection of any evidence that appears to conflict with it. » Ça c'est un point qui est très important. Il dit que tant qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec le modèle, un fait, une observation qui ne colle pas avec le modèle, c'est que le modèle n'est pas correct et on ne peut pas l'accepter. Si cette preuve est en conflit, ces preuves sont en conflit avec le modèle, l'attitude scientifique est de chercher une nouvelle idée qui peut les réconcilier. Bon, donc ça c'est un point très, très important et on va voir que ce n'est pas du tout comme ça que la communauté scientifique fonctionne. Qu'on peut avoir toute une communauté qui bascule alors qu'il reste des domaines entiers qu'on ne sait pas expliquer. Et ça, c'est un point qui est fondamental et qui se présente en fait à chaque fois qu'il y a vraiment un changement de paradigme dans une science quelconque. Alors, comme c'était une conférence pour le Collège de France, j'ai rappelé naturellement un certain nombre de choses, en particulier de Paul Fallot, qui a été le professeur qui enseignait la géologie avant moi, à l'école normale, il a terminé en 1960. Et c'est très amusant parce que Paul Fallot, qui écrit en même temps que... En 1922, il écrit dans sa thèse en même temps que Émile Argan publie La tectonique de l'Asie. Émile Argan est un géologue suisse qui a eu une influence énorme et qui avait pris les idées de Wegener pour expliquer en particulier toute l'évolution tectonique de l'Asie dans une perspective mobiliste comme Wegener. Et Paul Fallot, juste à ce moment-là, écrit « Les créateurs de la tectonique avaient vécu la phase des grandes synthèses, il parlait de la fin du siècle. Notre rôle est maintenant de préparer une nouvelle base sur laquelle nos successeurs pourront étayer de nouvelles synthèses. Très caractéristique de toute la période qui va de 1920 à 1960, dans laquelle la plupart des chercheurs pensent que ce n'est plus le moment des idées, c'est le moment d'étayer avec des faits, des observations, des nouvelles méthodes, que ce soit en sismologie, mais en géologie, etc. Et en 1960, j'ai trouvé ça très amusant, dans sa dernière leçon au Collège de France, Paul Fallot écrit « Dans l'autre monde, de l'autre monde, dans 10 ou 20 ans, j'espère vous voir établir sur quelques dizaines de feuilles au 50 millième bien levé, fondement essentiel de toute synthèse géologique valable, des interprétations nouvelles et plus adéquates que celles qui nous servent ici d'hypothèses de travail. » Donc il n'avait pas changé. Il suffit de décrire le monde et de l'observer avec une précision suffisante et tout sortira de lui-même. Pas besoin d'avoir d'idées, pas besoin de changer les choses. C'est une perte de temps et c'est pas scientifique. Alors, qu'est-ce qui a fait que cet édifice de nouvelles disciplines qui a quand même beaucoup progressé sur en particulier tout l'intérieur de la Terre, la sismologie, etc. Cet édifice a fini par être ébranlé et finalement s'est écroulé. Je crois que la première chose, c'est assez clair, c'est l'exploration des océans. Le deuxième, c'est la localisation détaillée de la sismicité globale qui sont à l'origine de cette révolution conceptuelle. Alors, l'exploration des océans a été en grande partie financée par la marine américaine. Et c'est intéressant de voir que ça a été lié à la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle des scientifiques comme mon patron de l'époque, Maurice Ewing, avaient été recrutés par la marine américaine et mobilisés, en particulier pour la guerre sous-marine. Et après, quand ils ont été démobilisés, ils avaient le pied dans la maison et ils ont obtenu qu'on continue à financer leurs recherches, même si elles n'avaient plus rien à voir avec directement l'exploration sous-marine. Et en particulier, la marine s'était aperçue que quand même, c'était important de savoir à quoi ressemblait le fond des océans, quelle était leur réponse acoustique, quelle était la géographie, etc., ce qu'on ne savait pas du tout. Donc ça a démarré un programme d'exploration de l'océan qui était sans commune mesure avec ce qu'il y avait eu avant. Le retard apporté à l'exploration d'ensemble des océans explique pourquoi les roches sédimentaires furent si longtemps délaissées. L'inoubliable du campagne du Challenger, c'est la campagne qui a eu lieu à la fin du 19e siècle, est venu du même coup proclamer notre ignorance sur les dépôts marins. Donc c'est vrai qu'on avait une très grande ignorance de ce qu'étaient les fonds des océans. Quand je suis arrivé au Lamont en 1900, donc ce laboratoire de Columbia University d'océanographie, dirigé par Maurice Ewing en 1959, l'océan, on pensait que les continents et les océans étaient permanents, et en particulier à cause des découvertes qu'avait fait le Lamont avec Maurice Ewing et Frank Press, dans lesquelles il avait été démontré que la structure des océans et des continents était radicalement différente. Si elle était radicalement différente, ça voulait dire que le continent ne pouvait pas se transformer en océan. Donc il s'agissait de deux domaines totalement différents. Et à partir du moment où il y avait deux domaines totalement différents, ça voulait dire que le domaine océanique était un domaine intact et qui ne pouvait pas devenir continent et vice-versa. Donc ça, c'était un point qui était fondamental. Et donc, on s'attendait à ce que les océans aient le même âge que les continents, au moins 3 milliards d'années, et on s'attendait à trouver la totalité du dépôt de l'érosion des continents, donc l'histoire complète de la Terre dans les bassins océaniques. Et la très grande surprise, c'est que ça n'a pas été ça du tout. Donc, premier point, l'apport de l'exploration des océans sous produit de la guerre sous-marine. Je crois que ça, c'est quelque chose... Alors, j'ai mis ça parce qu'il y a toujours une petite référence à soi-même. C'est une photo quand j'étais chef de mission à mon arrivée au Lamont. Je n'avais pas tout à fait le même âge. Mais c'était l'époque où le bateau, puis les bateaux du Lamont passaient 12 mois par an à faire le tour du monde. J'ai connu bien après, en 1973, à mon retour en France, les premières expositions sur le Rift avec le sous-marin. Là, je sors du Rift. C'était simplement pour montrer qu'après, on est entré dans une autre étape où on a regardé réellement les fonds et fait la géologie des fonds. Ce n'était pas le cas à cette époque-là. Je me sers de ça simplement pour présenter le fait qu'on avait affaire à un domaine totalement inconnu. On n'avait jamais rencontré ce type de domaine. Voici une photo, ça c'est l'alvine dans une fissure dans la dorsale médio-atlantique. Vous savez, ce sont ces fissures qui sont créées à l'axe au fur et à mesure qu'il y a une ouverture des plaques. Et le genre de géologie qu'on observait, c'est une géologie volcanique, comme ce qu'on appelle ici ces pilos lava qui ont craqué et la lave qui sort. Vous voyez que quand on descendait, ça faisait vraiment une impression d'étrangeté qu'on ne connaissait pas, un domaine totalement nouveau. Voici ici, ça a craqué ici, vous voyez, la lave est ressortie, vous avez le tube qui vient. Tout ça pour vous dire que c'est un domaine qui frappait énormément parce que, un, il n'y avait pas les quantités de sédiments qu'on avait dit, très peu de sédiments. Souvent, en tout cas au milieu des océans, le fond était volcanique et à l'affleurement. Ça ressemblait à rien de ce qu'il y avait sur le continent. Et pourtant, ça semblait très jeune. Il y a eu une recherche désespérée de sédiments anciens à laquelle j'ai participé. Et le plus ancien qu'on arrivait à trouver, c'était Crétacé supérieur, quelquefois Jurassique, jamais au-delà. C'est-à-dire pas plus de 200 millions d'années, et souvent beaucoup moins, alors que l'âge moyen des continents, c'est 3 milliards d'années. Donc il y avait un énorme gap. Comment se fait-il que 60% de la surface de la Terre semble être jeune ? Géologiquement, ça c'était vraiment une contradiction fondamentale, et d'un matériau complètement différent. Comment expliquer ça par rapport aux continents à côté qui ont une longue histoire de fabrication successive dans les orogènes ? Alors ce que je vous ai mis avant, c'était une image de la sismicité globale que vous connaissez peut-être, ça a été le deuxième point. L'époque était l'époque des tests d'essais nucléaires en Union soviétique. Et du coup, les États-Unis avaient lancé un énorme programme de détection sismique globale. Et donc, pour la première fois, on avait une très bonne détection de la sismicité sur l'ensemble du globe. Moins que maintenant, mais qui devenait... Et apparaissait alors la vision des lignes sismiques qui se révélaient étroites, en particulier au milieu des océans. C'est les lignes sismiques qui suivaient la crête des dorsales, ces 60 000 kilomètres de lignes dans lesquelles se fait, de frontières de plaques, dans lesquelles se fait l'ouverture et la création des fonds des océans. Et la question tout de suite s'est posée, qu'est-ce que c'est que cette sismicité ? Et quand on a regardé ça de plus près, on s'est aperçu que c'était une sismicité en extension, très différente de la sismicité dans les fosses océaniques, qui était une sismicité en rapprochement, en raccourcissement. Donc ça a été la première base. Et puis, c'est ce qui d'ailleurs nous a amené à faire, avec le Lamont, l'exploration des rifts océaniques en cherchant à voir s'il y avait un lien entre cette ligne sismique et le rift océanique. À l'époque, on ne connaissait pas le rift au sud de l'Afrique, on ne connaissait pas le rift dans une bonne partie de l'océan Indien ou dans certaines parties de l'océan Pacifique. Et partout, on a trouvé cette coïncidence. Donc on s'est aperçu qu'il y avait une structure majeure, ça c'était dans les années 60, enfin début des années 60, 59-60, qui était ce rift médio-océanique actif sismiquement en extension et partout semblant lié à la production de basalte. Bon. Alors, à partir du moment où ceci a été fait, il fallait essayer de l'expliquer. C'est là que Hess, en 60, a dit, ben voilà, la seule manière de l'expliquer, c'est de dire que le fond de l'océan est renouvelé et qu'on a une création à l'axe des dorsales d'un plancher océanique qui glisse de part et d'autre. Alors, évidemment, ça s'est heurté à plein de problèmes et plein de difficultés. Mais grâce à l'idée très pointue, en particulier de Fred Vine en Angleterre, l'idée s'est imposée qu'on pouvait le vérifier à partir des anomalies magnétiques, puisque quand le fond se forme à l'axe et se refroidit, le basalte devrait avoir une aimantation telle qu'il enregistre le champ magnétique terrestre à la période où il a été formé. Et comme le champ s'inverse, eh bien, on devait avoir des bandes alternées, etc. Vous connaissez, je pense, l'histoire. Alors, en 1966, il y a eu le moment déterminant. Ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque Wien a proposé son modèle, il a basé sur sa thèse qui était faite dans l'océan Indien, un endroit de la dorsale de Carlsberg où les anomalies étaient très mauvaises, très peu symétriques, et ce n'était pas convaincant du tout. Personne n'avait été convaincu. Je me rappelle avoir lu l'article de Nature et discuté avec mon voisin, et on disait, mais qu'est-ce qu'il raconte là? C'est n'importe quoi, ça ressemble à rien, son affaire. Donc, personne ne s'y intéressait vraiment. Mais lorsque Walter Pitman, qui était mon voisin de bureau, en 1900, fin 65, début 66, a obtenu ce profil, vous voyez, qui fait ici 200 km sur la dorsale du Pacifique, un profil dans lequel vous avez le profil magnétique, le profil inversé, qui lui ressemble énormément, et le profil produit en se servant de l'échelle géomagnétique des inversions. L'accord était tellement extraordinaire qu'à ce moment-là, tout le monde a basculé. Vous voyez, on a eu tous ceux qui connaissaient l'océan, les champs magnétiques, ont dit, ben ça, personne ne peut expliquer ça. Voilà. Le modèle de Hess et avec son corollaire de Wien est le seul qui explique qu'on ait des anomalies qui soient symétriques, qui reproduisent la succession des polarités, etc. C'est trop de coïncidences pour ne pas l'accepter. Vous voyez. Ça a été fait alors qu'il y avait encore plein de questions qu'on ne comprenait pas. Et c'est là-dessus que je voudrais un peu insister. J'ai une lettre de Dan McKenzie de 1963 qui dit que à l'époque quand Fred Wien a publié son article sur la dorsale dans l'océan Indien, hein, it simply was not obvious to us that what Fred and Ron Matthews were doing was so important. Mackenzie a été un des fondateurs de la tectonique des plaques. Il était le voisin de Fred Wien et de Ron Matthews. Il ne s'est pas intéressé à ce qu'ils ont fait. Et personne, je dis bien personne, même pas Fred Wien, n'a utilisé en quoi que ce soit les anomalies magnétiques entre 63, le moment où Fred Wien a publié son article, et 66, quand on a découvert l'autre profil. Donc il y a eu toute une période où on ne savait pas quoi faire de cette idée, on ne pouvait pas la vérifier avec les anomalies qui étaient disponibles, c'était en l'air. Il a fallu cette découverte de profils symétriques qui se sont après multipliés pour vraiment changer. Alors, à partir du moment où on mesurait, et on pouvait mesurer sur les dorsales l'ouverture, etc., il devenait clair que le modèle devait fonctionner, et l'étape suivante, c'était d'en faire un modèle global. Ça, c'est le modèle que j'ai publié en 68, alors que je venais de quitter le Lamonde, mais j'ai fait le travail au Lamonde, qui était un modèle à 6 plaques rigides, et dans lequel l'accord, vous voyez, les vitesses de raccourcissement dans l'Himalaya, d'ailleurs qui sont plus proches de ce qu'il y a à l'heure actuelle que ce qui a été pendant des tas d'années. Ça a amené deux étapes importante. D'une part, obtenir une cinématique globale et locale, dans laquelle on voyait le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres et on pouvait le relier à la sismicité, mais aussi à la tectonique. La deuxième chose, c'est ce que j'avais fait dans mon article de 68 pour la première fois, c'est de faire des reconstructions rigoureuses de l'emplacement des continents les uns par rapport aux autres. Ici, c'était à la fin du Crétacé. C'était deux étapes importantes. Naturellement, c'est uniquement pour la période où le fond des océans est encore celui qu'on peut observer à l'heure actuelle de 100 millions d'années. Donc, en gros, on peut dire qu'à partir de 66, l'essentiel des personnes qui fonctionnaient dans ce système, des chercheurs impliqués qui avaient accès à ces données, étaient convaincus que c'était le modèle qui marchait. Et en 68, c'était 98% des chercheurs en sciences de la Terre aux États-Unis ou en Angleterre. Alors, pourtant, à cette époque, il y avait plein de problèmes qu'on ne comprenait pas, en 66 en tout cas. Ce modèle n'explique pas tout. Et je vais essayer d'en montrer quelques exemples. faut montrer que on a fait volontairement l'impasse sur ces problèmes en disant, ben, je les comprends pas, ben, tant pis. Ça veut dire qu'il y a des énigmes, mais ça ne veut pas dire que le modèle est faux. Oui, c'est important de comprendre ça. Alors, j'ai pris trois exemples. Le premier problème, c'est celui du flux de chaleur. J'ai été très impliqué dedans parce que j'avais fait avec Langset et Ewing la première détermination systématique du flux de chaleur dans les océans, sur les fonds des océans. Le flux de chaleur, c'est la quantité de chaleur qui sort par effet conductif du fond des océans. Donc on l'obtient en mesurant la température à plusieurs profondeurs, quelques sur 2 ou 3 mètres. Comme la température du fond des océans est stable, ça marche. Et à ce moment-là, en connaissant la conductivité, le produit du gradient de température par la conductivité vous donne la quantité de chaleur qui sort de l'intérieur de l'océan, de l'intérieur du fond de la mer. Et en comparant ça à un modèle, j'avais pris le modèle de Hess, à l'époque j'ai correspondu avec Hess là-dessus, j'avais fait un calcul numérique, un modèle numérique assez simple, dans lequel je pouvais, c'était facile, prédire quelle était la quantité de flux qu'on attendait s'il y avait une ouverture à 1 ou 2 cm par an. Et le résultat était que le flux mesuré était 3 fois inférieur au flux que prédisait le modèle. Et on ne voyait pas comment ça pouvait être différent. Le flux mesuré était 3 fois inférieur au flux prédit par le modèle de Hess, celui qui prédisait le seafloor spreading. Donc il y avait une insuffisance du flux mesuré par rapport au flux prédit. Alors Mackenzie, à la même époque, qui lui déjà croyait que le seafloor spreading fonctionnait, il venait de Cambridge où ceci était devenu accepté à partir de 65. Il a repris notre modèle. On a fait un modèle algébrique assez élégant. Et il dit, ben c'est simple, j'ajuste très bien, il n'y a pas de problème. Comment il fait? Il divise la température du manteau par 3. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un manteau à 1500 degrés, comme j'avais fait à 200 km, il prend un manteau à 500 degrés. Avec un manteau à 500 degrés, il dit, c'est parfait, j'ajuste tout. Alors quand je lui ai dit, mais Dan, tu sais bien que le manteau n'est pas à 500 degrés, sinon il n'y aurait pas de basale qui sortirait, il faut qu'il soit près du point de fusion. Oh, details, parameters, details. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez intéressant parce que ça montre quelle est l'attitude du scientifique. À partir du moment où il a choisi soit un modèle fixiste, soit un modèle mobiliste, hein, après, quand il se trouve devant des obstacles, il n'hésite pas à ajuster. Voilà. C'est un point, et c'est assez intéressant parce que quand il l'a fait, personne ne comprenait pourquoi il y avait cette différence. Personne. La différence, on l'a compris quand on a trouvé des choses comme ça, hein, c'est que ça, c'est une cheminée au fond de la mer dans l'océan Pacifique qui sort de l'eau à 300 degrés, hein, l'eau qui s'est infiltrée dans les roches et qui ressort comme ça. Il est évident que quand vous avez une cheminée comme ça qui sort de l'eau à 300 degrés, vous sortez une quantité de chaleur très importante qui n'est pas mesurée par votre appareil qui mesure juste la conduction dans les sédiments. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que 2/3 de l'excès de chaleur apporté par la convection sont évacués par un système convectif de circulation de l'eau de mer dans la roche. Mais ça, ce n'était pas su. Ça a été après très étudié, mais ce n'était pas su. Et tant qu'on ne le savait pas, on restait avec ce problème. Mais comment ça se fait? Et moi, j'avoue que ça a été quelque chose de déterminant, parce que j'ai terminé ma thèse en 66, j'ai été la défendre à Strasbourg, et la conclusion de ma thèse, c'est que ce n'était pas possible que le seafloor spreading fonctionne aux vitesses qu'il donnait, parce que le flux de chaleur le contredisait. J'avais raison, si tout le flux de chaleur était conductif. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas tenu compte d'un paramètre caché qui était le flux convectif. Et depuis, j'ai toujours eu cette chose en arrière-plan dans ma tête, c'est est-ce qu'il n'y a pas un paramètre caché? Donc, on voit là le genre de problème auquel on était affecté. Alors, après, il y avait le problème de la subduction, qui a joué un très grand rôle dans le laboratoire où j'étais, au Lamont. parce qu'on avait une exploration globale et on avait des tas d'exemples de ce qui se passait dans les zones de convergence. Le problème était que dans les zones de convergence, on ne voyait que de l'extension dans les fosses. Que de l'extension. À l'heure actuelle, la fosse du Chili, à l'ouest de l'Amérique du Sud, et vous avez donc le fond de la mer, la lithosphère océanique qui plonge sous le Pérou, etc., et qui va faire la subduction avec des séismes d'ailleurs très importants. Or, quand on regardait ici, ce qu'on voyait essentiellement, c'était des failles normales parallèles à la fosse. C'était de l'extension dans la partie superficielle de la fosse. Et de l'autre côté, là où on attendait à avoir une compression formidable, rien du tout, parce qu'on ne pénétrait pas avec la sismique, donc on ne voyait pas les déformations. Et dans le fond de la fosse, le remplissage de sédiments était absolument non déformé, jusqu'au contact du mur continental. Rien. Alors on disait, ça bouge pas, si ça bouge, c'est de l'extension, c'est quelque chose qui s'effondre, c'est un graben. Erreur fondamentale qui s'explique quand vous regardez les choses, comment ça se passe en réalité. Vous avez une lithosphère qui fait 100 km d'épaisseur, là c'est sans exagération verticale, qui se plie et plonge. Quand elle se plie, vous avez de l'extension en extrado, c'est ce qui était observé. Vous pliez une plaque, la partie supérieure de la plaque est mise en extension, la partie inférieure en compression. Ce qu'on voyait, c'était la partie supérieure. Donc on voyait partout ces figures d'extension ici. Et puis ensuite, ici, les sédiments ne transmettant pas la contrainte parce qu'ils n'ont pas de résistance, ne se déformaient qu'une fois qu'ils arrivaient au mur. Et là, ils étaient accrétés au mur. Et notre sismique ne pénétrait pas dans ces sédiments. Maintenant, avec la sismique pétrolière et des bonnes sismiques, on arrive à voir cette déformation prodigieuse, très importante, du mur interne. Mais on ne la voyait pas. Donc, deuxième problème, les gens qui travaillaient dans les fosses, ils disaient « Mais qu'est-ce que vous nous racontez ? La convergence, on ne la voit pas. » Troisième problème, la cinématique. Et combien de personnes sont venues me trouver pour me dire ça à l'époque où j'ai sorti mon modèle, et moi-même, combien de fois je me suis posé la question. Il n'y avait pas de rapport un pour un entre zone de convergence, subduction, et zone d'accrétion rift. C'est le problème des mouvements relatifs et absolus. Pour beaucoup de gens, s'il y avait un système comme ça, ça devait être lié à une convection en dessous. Donc vous deviez avoir une montée sous les dorsales et une descente sous les fosses. De la convection. Bon. Mais quand on regardait les choses, on ne voyait pas ça du tout. Vous voyez, quand on regardait, on voyait tout autour de l'Afrique de l'extension. Donc tout autour de l'Afrique, où était la subduction qui correspondait à l'extension? Tout autour de l'Antarctique, que de l'extension. Donc les gens disaient, c'est absurde. Ça ne peut pas marcher. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que le mouvement pouvait se transmettre, c'était un mouvement global des plaques, et que donc, puisque le mouvement se transmettait, vous pouviez avoir une fosse qui accumule l'extension, qui va prendre, si vous voulez, toute la surface correspondant à l'extension de plusieurs dorsales. Ce qui compte en fin de compte, et c'est ce que j'avais eu dans la condition que j'avais mis dans mon modèle de 6 plaques pour le calculer, c'est de dire la totalité de la convergence est égale à la totalité de l'extension sur la Terre. Mais c'est évident que vous avez beaucoup plus de convergence dans le Pacifique que dans l'Atlantique où il n'y en a quasiment pas. Donc c'était quelque chose qui n'était pas simple à comprendre. Vous n'avez pas de coïncidence entre les mouvements des plaques et la convection certaines, mais non connues, en dessous. Alors, ça suppose naturellement que le rayon de la Terre soit fixe. Alors, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient proposé que la Terre soit en expansion rapide. Alors, il y avait une chose très... J'ai discuté ça dans mon premier article, en 68. Vous aviez une... Si vous supposez qu'il n'y a pas de subduction, la Terre, ça veut dire qu'en gros, vous avez plus que doublé la surface de la Terre en 200 millions d'années. Donc, pour le faire, il faut changer la constante de gravité par un facteur très très important qu'aucun astrophysicien ne peut accepter. Même Aiguied, à l'époque, qui avait supposé ce genre de choses, voyait un changement de la constante de gravitation progressive depuis l'origine de la Terre. Mais ça, c'était impossible. La deuxième chose que j'avais fait remarquer, c'est que supposons que ce soit vrai. À ce moment-là, on s'aperçoit que la Terre gonflerait beaucoup plus vite à l'équateur qu'au pôle. Donc si on revient en arrière, il y a 200 millions d'années, la Terre n'aurait pas eu une forme hydrodynamique, ce qui était absurde, parce qu'elle tournait. Donc ça ne marchait pas. C'était clair que l'expansion n'était pas quelque chose qu'on pouvait observer. Vous avez ensuite les vecteurs mouvements dans un référentiel qui est lié à l'intérieur de la Terre. Je ne vais pas discuter quel est ce référentiel, mais qui vous permet de vous rendre compte que dans ce système, ce n'est pas du tout équivalent. Les continents bougent relativement peu et que les plaques comme le Pacifique ou l'océan Indien bougent extrêmement vite. Alors, j'en viens au point suivant. En 67-68, je vous ai dit, tous les gens qui étaient dans le système considéraient que le modèle était adopté, même si on n'arrivait pas à... Il y avait encore des choses qui restaient en l'air. Est-ce qu'il était démontré ? Certainement pas. Il faudra attendre les forages du Glomar Challenger entre 68 et 75, qui, en forant partout dans les océans, ont à chaque fois trouvé l'âge qui était prédit par le modèle. Ça, c'était quand même quelque chose d'assez fort. Et puis, deuxièmement, j'en viens à la question de ce monsieur, la mesure géodésique du mouvement des plaques a été possible à partir des années 80. C'est-à-dire que ça a été une des grandes émotions dans ma vie. La première fois où on a mesuré le mouvement de Hawaï par rapport à Tokyo et montré que la vitesse était celle que j'avais prédite à peu près, c'est-à-dire 8 cm par an de raccourcissement. Donc à partir du moment où on pouvait mesurer à partir de la géodésie, vous savez qu'on le mesure de mieux en mieux et de plus en plus, à tel point que maintenant il y a des modèles de mouvement des plaques depuis maintenant 7-8 ans qui sont entièrement géodésiques, c'est-à-dire basés sur les mesures des 5 dernières années. Et qui sont pas vraiment différenciables, un petit peu, mais pas vraiment différenciables, des mouvements obtenus à partir des anomalies magnétiques qui sont basées sur l'équivalent de 2 à 3 millions d'années. Donc, qui montrent d'ailleurs la continuité du mouvement. Ça a résolu un problème sur lequel on avait beaucoup discuté dans les années 70, qui avait ce qu'on avait appelé la tectonique des plaques accélérées. Don Anderson, en particulier, avait proposé ça. C'est-à-dire que on peut avoir un système où, à cause du fait que vous accumulez les déformations dans les fosses, des déformations élastiques, vous avez une propagation avec un système élastique sur visqueux qui fait que le mouvement des plaques, on pourrait voir la spasmodicité de ce mouvement sur l'ensemble des plaques. Alors, j'arrive au bout de ce que je voulais vous dire. C'est une vision intéressante, c'est d'avoir une vision sociologique sur qui sont les chercheurs qui ont fait qui ont travaillé à la mise en place de ce nouveau modèle. Il s'agissait de gens qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire qui travaillaient avec les données, soit en mer, soit à terre, qui étaient principalement jeunes, des gens comme Mackenzie, moi-même, Vine, etc., étaient tous des gens qui avaient entre 22 et 28 ans. C'était vraiment des jeunes qui ont joué le rôle majeur. Pas ceux qui ont donné, en particulier Hess, qui a donné la très grande idée. Lui était déjà quelqu'un qui avait la soixantaine. Il était combattu par qui ? Ben, principalement par les gens au pouvoir. Ça, c'est clair. Et ayant beaucoup investi dans les modèles précédents. Et c'est vrai que c'est extrêmement désagréable d'être dans une situation où vous avez défendu un modèle pendant longtemps et que vous avez des petits jeunes qui viennent vous dire des choses comme ça. J'ai une expérience à ce sujet, c'était à Moscou, au congrès de Moscou, je ne me rappelle plus quand, c'est dans les années 70, où je me suis trouvé avec Franck Press, c'était une soirée qui était un peu trop arrosée, et je lui ai dit, mais enfin Franck, comment, avec toute ton expertise, toutes tes connaissances, tout ce que tu sais sur le globe, comment ça se fait que tu n'as pas été fichu d'avoir cette idée de tectonique des plaques ? Et il était tellement vexé que dans la préface de son édition du livre The Earth, il le cite sans me donner mon nom, hein, comme un exemple d'arrogance des jeunes chercheurs. Donc c'était vraiment quelque chose mon patron Maurice Ewing, jusqu'à la fin de sa vie, et il est mort vers les années 82-83, à chaque fois que je le voyais, il me disait « Tu crois pas qu'on va enfin trouver la preuve que tout ça, c'est faux ?» Et il s'accrochait à ça. Voyez, on peut s'accrocher à quelque chose parce que on a pris trop, on a été trop pris par l'affaire et on ne peut pas accepter que ça se passe sans soi. Alors, une résistance qui s'effrite au fur et à mesure que l'efficacité du modèle se confirme. Alors là, on a vu cet effritement se faire à partir des États-Unis, c'est-à-dire un basculement soudain, et l'Angleterre. En France, ça a été beaucoup plus lent. Et puis, il y a des pays où c'était extrêmement lent, c'est en Union soviétique et au Japon, parce qu'il y avait un système gérontocratique qui faisait qu'il fallait que les gens meurent pour que l'idée puisse s'imposer. Donc, et puis, il y a des gens très remarquables, et je pense à Harold Jeffreys, qui, jusqu'à sa mort, ont dit « c'est n'importe quoi, ça ne tient pas votre affaire », et qui continuent à le publier. Donc, vous voyez que il y a un basculement de la communauté scientifique, ça ne veut pas dire qu'il y a unanimité. Alors, comment cette hypothèse est-elle devenue une théorie dominante en position d'autorité? Il faut voir que l'autorité vient de la pratique scientifique. À partir du moment où il y a un consensus de la communauté scientifique et que le modèle utilisé par quasiment tout le monde, c'est celui-là, c'est ça qui fait l'autorité du système. Ce n'est pas l'Académie des sciences ou le Bureau des longitudes qui dit « bon, ben maintenant, à partir du moment où vous faites comme ça, ça ne marche pas, ça. » Il faut un consensus. Donc, parce que les chercheurs en sciences expérimentales sont pragmatiques. On cherche à être publié, on cherche à avoir des choses qui marchent. Si ça marche, eh bien, c'est bon. Nous avons utilisé le modèle qui rendait le mieux compte des observations et qui prédisait les résultats que nous pouvions vérifier. On l'utilisait parce que cela marchait. En fin de compte, la quasi-totalité de la communauté scientifique adopta cette théorie à cause de son efficacité d'ensemble, même s'il restait quelques observations importantes qui restaient inexpliquées, ou pire, qui paraissaient en contradiction avec la théorie. L'adoption se fit avant que la théorie n'ait été démontrée. Je crois que c'est un point qui est très important. Il y a eu un décalage de 20 ans entre ce que j'appellerais la démonstration par la géodésie et par les forages, l'adoption pratique dans la communauté. Alors, j'ai voulu juste une petite réflexion qui m'a amusé, je dois dire, sur le... De voir en quoi ce que j'avais appris sur la tectonique des plaques, ce changement de la tectonique des plaques, du système fixiste au système mobiliste, pouvait m'aider à comprendre ce qui se passait dans la théorie du changement climatique dû aux gaz à effet de serre. Donc j'amorce une comparaison qui n'est probablement pas finie. Ce ne sera pas long, rassurez-vous. Alors, c'est assez amusant parce que Arrhenius, c'est un peu le Wegener de la théorie climatique. C'est lui qui, dès 1896, avait prédit qu'un doublement du CO2 atmosphérique, c'est curieux parce que c'est à peu près le chiffre que donnent les modèles actuels, à la suite de l'utilisation industrielle de combustibles fossiles, conduirait à un réchauffement global de 4 degrés centigrades. Alors, il a probablement eu un peu de chance dans ses calculs, parce qu'il trouve à peu près ce que trouvent les modèles actuels. Mais ceci ne s'appuyait sur aucune mesure. Et la mondialisation restait très fruste. Arrhenius était en quelque sorte le Wegener du changement climatique. Si on veut. Alors, en fait, quand on bougeait les choses, c'est à partir du moment où il y a eu des données qui allaient dans cette direction. Et le point probablement de basculement, ça a été à partir des années 70, lorsque les mesures en continu de la teneur en CO2 au sommet du Mauna Loa, par Sidi Keeling, qui était de Scripps, qui a commencé ça en 58, ont montré une augmentation systématique, rapide, du taux de CO2. Une des grosses difficultés de mesure du taux de CO2, c'est que souvent les mesures étaient faites en ville ou proche des villes, et donc était pollué par ce qui se passait dans les villes. Là, on avait une mesure qui était incontestable de ce qui se passait à 3 à 4 000 mètres d'altitude, et l'effet a été très important sur les climatologues. À la même époque, l'augmentation de la température moyenne globale s'accélère. C'est une bonne coïncidence. Le modèle d'Arrhenius est pris sérieusement en compte avec la mise en place du GIEC en 1988. L'hypothèse devient une hypothèse privilégiée pour les climatologues au moins, capable de prédire l'évolution moyenne du climat en fonction de la teneur des gaz à effet de serre. Mais la durée trop courte de l'évolution, puisque là, on doit tester ça sur une évolution, rend toute démonstration de la validité de la théorie comme explication principale du changement climatique encore impossible, encore aujourd'hui. Depuis, les observations expliquées par cette théorie ne cessent de se multiplier. La durée d'observation devient plus convaincante, mais encore trop faible pour une démonstration définitive. Il reste par ailleurs de nombreux points obscurs, que je ne détaillerai pas, et donc quelques scientifiques de moins en moins nombreux qui ne l'admettent pas. L'essentiel de la communauté scientifique, au moins climatique, a basculé dans le nouveau paradigme, même s'il reste quelques Jeffreys, et je leur fais de l'honneur en disant ça, qui n'acceptent pas d'adopter ce modèle, tant que les réponses à des questions qu'ils considèrent importantes n'auront pas été données de manière suffisamment convaincante pour eux. Voilà, je vous remercie.
C'était Xavier Lepichon, géodynamicien, membre de l'Académie des sciences, professeur honoraire au Collège de France. Il revenait sur la découverte récente de la tectonique des plaques, de la controverse qu'elle a déclenchée et de la validation 20 ans après de cette hypothèse par l'ensemble de la communauté scientifique. Xavier Lepichon s'exprimait au Bureau des Longitudes à l'Institut de France en novembre 2008, des conférences ouvertes au public et dont vous pouvez consulter leur programme sur leur site www.bureau-d.longitude.fr. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines émissions.